Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelle prise en charge des malades mentaux, c'est le thème qui sera largement débattu au cours de ce grand dialogue. Le centre psychiatrique de l'hôpital du Pont-G reçoit par an plus de 7000 cas de malades mentaux. Ce chiffre a été communiqué ce lundi 30 octobre 2023 lors de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale. Les proches des patients et les spécialistes déplorent le manque d'infrastructures pour la prise en charge de cette pathologie. Comment se fait la prise en charge des malades mentaux? Comment fonctionnent les structure de prise en charge? Peut-on complètement guérir d'un trouble mental? Dans la foulée de la journée mondiale de la santé mentale célébrée hier 30 octobre 2023, Studio Tamani pose le débat avec nos invités. Docteur Joseph Traoré, psychiatre à l'hôpital du Pont-G, Bourama Sangaré, psychologue au département de la psychologie de la faculté de sciences humaines et de sciences de l'éducation, Bandjougou Gueye, président de l'association des enfants autistes Digia. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Docteur Joseph Traoré, c'est quoi la santé mentale?
Merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien remercier et saluer les téléspectateurs et les auditeurs de Studio Tamani et remercier aussi Studio Tamani de nous avoir donné l'occasion de pouvoir parler d'une situation aussi complexe qu'est les problèmes de santé mentale. Alors, pour répondre à votre question, la santé mentale, c'est le bien-être sur le plan mental qui va nous permettre de fonctionner de façon harmonieuse, de faire face aux difficultés de la vie et de revenir à notre état habituel et d'être productif pour notre communauté. En ce moment, on va parler de santé mentale. Alors, par rapport à cet état, si on dit comme ça, beaucoup de gens, dès qu'on parle de santé mentale, entendent par là les problèmes de santé mentale. C'est quand on n'est pas dans cette disposition de fonctionner de façon harmonieuse qu'en ce moment, on va parler. Il y a des problèmes de santé mentale et après, la maladie mentale qui va s'en suivre. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à cette préoccupation. C'est quoi la santé mentale?
D'accord. Bourama Sangaré, avez-vous d'autres définitions psychologiquement de la santé mentale?
Oui, merci M. Maïga de nous avoir donné la parole. C'est un plaisir pour nous d'être là et de discuter sur ce sujet tellement intéressant. Parlant de la santé mentale, de la santé d'abord de façon générale, qui se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc cela va nous permettre d'appréhender la santé sous ces trois volets, c'est-à-dire la santé en tant que volet social, en tant que volet psychologique et en tant que volet organique. Donc il nous permet d'expliquer et à la fois la santé et à la fois la maladie. Autrement dit, pour parler de la santé, il faut qu'il y ait l'interaction entre ces trois facteurs, les facteurs psychologiques, les facteurs sociaux et les facteurs physiques. Maintenant, précisément, en ce qui concerne la santé mentale, docteur l'a déjà dit, docteur Joseph, quand on parle de santé mentale, il s'agit surtout de cette faculté du psychisme humain de fonctionner de façon normale, quelles que soient les difficultés. Et là, cela va nous poser la question à savoir qu'est-ce qu'une personne en bonne santé mentale. Donc, c'est une personne qui est capable donc, de produire et de contribuer au développement de sa communauté. Et quelles que soient les circonstances, la personne qui tient confiance à faire face et cherche à tous les moyens donc à faire face aux difficultés dont il fait face dans sa vie.
D'accord.
Donc c'est cette santé mentale. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on ne parle pas, on ne peut pas parler de la santé sans parler de la santé mentale. De façon générale, c'est la base même de toute la santé. Dès que vous percez le mental, cela veut dire que le physique aussi est percé. Et dès que le social aussi est percé, ça veut dire que le mental et le physique aussi peut être percé. Donc il y a une interdépendance entre ces trois facteurs pour parler vraiment de la santé, et particulièrement de la santé mentale.
Bandjougou Gueye, vous êtes de l'association des enfants autistes. Comment percevez-vous la santé mentale?
Merci bien, M. Meyra, d'avoir me donné une occasion au nom des milliers d'enfants autistes et leurs familles de nous exprimer que nous sommes en train de chercher il y a longtemps. Je remercie le studio Tamani et les auditeurs et les auditrices de studio Tamani aussi. Vous savez, je parle précisément, on ne peut pas parler, nous, les parents d'enfants, après les deux spécialistes du développement de la santé mentale. En tout cas, ce que je cherche, ce qui concerne l'autisme, je sais que c'est un trouble développemental que nous avons constaté à nos enfants depuis d'autres à leur naissance, d'autres quand ils sont devenus un peu grands. Donc nous sommes confrontés aujourd'hui à ces différents problèmes.
Les enfants que vous recevez dans votre centre venaient comment ? Des enfants qui ne parlent pas ?
Vous savez, il y a plusieurs catégories d'enfants autistes. Il y a d'autres qui parlent un peu. Il y a d'autres qui ne parlent pas. Il y a d'autres qui ne marchent même pas. Il y a d'autres qui marchent. C'est les différentes catégories de degrés de maladie que nous avons. Moi, par exemple, moi, en tant que président de l'association, moi, je pense que c'est moi seul qui avais un enfant comme ça. Et c'est en 2017, quand il y a eu un projet de recherche de la faculté de médecine sur l'autisme, dirigé par le docteur Sangaré, après avoir nous fait une prise en charge, que nous avons connu que les maladies de nos enfants s'appellent l'autisme. On nous a donné plusieurs noms à notre maladie de nos enfants.
Votre centre reçoit combien des enfants autistes ?
Non, vous savez, pour l'histoire du centre, c'est grave. Nous avons créé notre centre. Parce que qu'est-ce qui nous a poussé d'abord de créer notre centre ? Parce que nous avons remarqué que nos enfants sont discriminés. Aucune école publique, ni privée n'accepte nos enfants. Personne.
Et pourquoi ?
Parce que ils ont un comportement, quand ils viennent tous ici, ils mettent tout ici. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils sont très mobiles et puis ils envahissent trop. Ils font beaucoup de bruit et puis ils montent sur cette table-là. C'est comme ça que chez eux. C'est pourquoi il y a plusieurs médicaments pour eux. Donc nos enfants ne sont pas pris en charge par ces écoles-là. Donc nous avons pris l'initiative de créer un centre. Ce centre, on l'a initié en 2022. On a eu une maison de rez-de-chaussée de plus de... À un parent qui nous a donné moins cher, mais on a payé 1 875 000 francs du 1er janvier au 31 décembre 2022 par un parent d'enfant et qui nous a donné encore également des mobiliers, des matériels pour équiper le centre. Mais malheureusement, nous avons tenté partout pour avoir des moniteurs, des monitrices pour prendre, pour une prise en charge de ces enfants-là. On n'a pas pu obtenir. On a été obligé d'abandonner le centre-là. Volontairement que j'ai amené à une de mes maisons à l'hippodrome 2 actuellement. Nous sommes en train de nous réorganiser. Le 5 novembre, on a pris pour une assemblée générale la mise en place de notre conseil d'administration, le renouvellement des bureaux, pour pouvoir redémarrer le centre rapidement.
D'accord. Docteur Joseph Traoré, comment se manifeste cette pathologie ?
Alors, parlant de l'autisme, M. Gay a bien posé le problème. C'est un trouble neurodéveloppemental qu'on voit chez les enfants. Et très généralement, le diagnostic est posé avant les 3 ans. Ou quand on voit les manifestations, on se rend compte que quand on va demander les parents, ils vont avec les différentes manifestations, on verra que ça a commencé bien avant les 3 ans. Alors, l'autisme, c'est un trouble qui se manifeste dans 2 grands registres chez les enfants. Il y a le registre par rapport à les relations interpersonnelles et la communication. Ça, c'est très difficile chez ces enfants. La communication, très généralement, il y a beaucoup, surtout la communication verbale et non verbale, il y a beaucoup qui ne parlent pas ou qui parlent très peu. Et il y a aussi le comportement stéréotypé ou la restriction des centres d'intérêt de ces enfants-là. Donc c'est ce que M. Gay a dit tout de suite. Ils vont avoir des comportements qui sont très répétitifs, qu'on appelle des comportements stéréotypés. Ils reviennent toujours sur la même chose. où ils vont prononcer toujours les mêmes mots. Et ils vont s'intéresser à des choses, des fois, où ils vont s'amuser seuls, où ils sont isolés. Et quand on est en contact avec eux, par exemple, le contact visuel, quand on est en contact avec les gens, il y a cette relation. Quand je parle avec vous, je vous regarde dans les yeux, je vous adresse, vous savez qu'on est en relation. Mais avec ces enfants, vous allez voir qu'il y a très peu de contacts, surtout visuels. Aussi, il y a des contacts sur le plan physique. C'est des contacts qui, bon, c'est comme s'ils vont utiliser les autres comme des jouets. Ou ils vont utiliser, par exemple, M. Gueye doit le savoir bien, ils vont utiliser les membres des parents comme leurs membres. Par exemple, s'ils veulent saisir quelque chose, ils vont prendre la main du parent qui pourra aller saisir ça. Alors ça, ce sont des comportements qu'on peut voir, par exemple, quand l'enfant commence à grandir. Mais dès le jeune âge, les premiers mois de la vie, on peut le détecter. On sait que les mamans le savent très bien. Quand un enfant est là, déjà après les premiers jours, il y a une certaine interaction qui est là. Au moment où l'enfant commence à sourire, il y a ce qu'on appelle le sourire organisateur, les premiers mois, peut-être un mois, deux mois, on voit que l'enfant, quand on appelle l'enfant ou quand on est en contact avec l'enfant, l'enfant interagit. Quand l'enfant est, par exemple, quelque part, quand il a faim, il pleure. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de ces enfants qui sont des enfants soit trop sages. Quand les mamans les mettent quelque part, l'enfant ne presque dérange pas. Quand on voit ça, on doit s'inquiéter, on doit demander, on doit aller chercher à comprendre de quoi il s'agit. Ou c'est des enfants, par exemple, quand on prend un enfant dans le bras, le bébé s'accommode. Quand vous le prenez, il va se mettre en mouvement pour être dans une position confortable. Souvent, avec ces enfants, on verra que tel n'est pas le cas. Alors, on peut voir aussi que l'enfant, même s'il ne dort pas, il reste calme dans son coin. Alors, quand cela se passe, et les mamans savent que, surtout ceux qui ont déjà eu des enfants, vont se rendre compte que ah, cet enfant est différent des autres enfants que j'ai. La manière dont agit cet enfant ou réagit cet enfant est différente que j'ai pour les autres enfants. En ce moment, il y a les parents qui vont aller demander des consultations ou souvent vont poser des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et plus l'enfant grandit, plus ces troubles dont on a fait les troubles de l'interaction et de la communication s'établissent de plus en plus. Vous allez voir que l'enfant parle peu ou l'enfant ne parle pas ou prononce des mots ou très peu. Les apprentissages qui se font au fur et à mesure, on verra que ces apprentissages-là deviennent difficiles parce qu'il n'y a pas d'interaction avec les parents et l'apprentissage est difficile. Donc c'est un trouble qui est lié au développement du cerveau. Et les causes, c'est beaucoup plus des causes génétiques qui sont là. Et à un moment donné, on pensait que c'était les mamans qui étaient des mauvaises mamans qui faisaient que l'enfant était dans cet état. Mais on sait aujourd'hui que la génétique joue un grand rôle dans la cause de l'autisme. C'est pourquoi, quand vous allez prendre les documents, on va parler du spectre de l'autisme parce qu'il y a des manifestations avec plusieurs causes génétiques possibles.
Et quand l'enfant va développer avec cette situation, il perdra ses facultés mentales, ses facultés ?
C'est pas qu'il perdra ses facultés. Dans la grande majorité des cas, il y a un déficit intellectuel qui l'accompagne. C'est-à-dire que la capacité à apprendre est beaucoup diminuée chez ces enfants. Et il y a des formes d'autisme où l'enfant va être très intelligent, une partie ou un domaine précis de l'intelligence va être très développé. Mais tout le reste, l'interaction sociale, les apprentissages, les autres vont être en berne. Mais vous allez voir qu'il y a un seul domaine qui peut être développé.
D'accord. Monsieur Gueye parle tout à l'heure de discrimination, d'isolement des enfants, la difficulté d'avoir une motrice pour ses enfants. Qu'est-ce qui peut expliquer cela selon vous? Pourquoi avoir des difficultés, qu'il y a une difficulté d'avoir une motrice pour ses enfants?
La difficulté.
On perd de ses enfants, ces motrices-là? C'est monitrice.
Il faut savoir que est-ce que c'est la peur seulement? Il y a l'incompréhension. Si on ne sait pas de quoi il s'agit, ça va être extrêmement difficile. Mais il faut savoir aussi que s'occuper de ses enfants, ça demande beaucoup d'investissement. C'est-à-dire d'investissement sur le plan émotionnel, sur le plan personnel et même sur le plan financier. Alors, si on ne comprend pas bien de quoi il s'agit et que ça demande beaucoup d'investissement, vous verrez que beaucoup de personnes ne seront pas, en tout cas, attirées tout de suite à aller vers la prise en charge. Et vous savez que sur le plan socio-culturel, on donne beaucoup d'interprétations socio-culturelles par rapport à ces enfants. Je pense que M. Gueye pourrait mieux préciser cela. Avant que les parents ne comprennent exactement que c'est un problème, une maladie en tant que telle, les gens vont penser à beaucoup d'autres choses. Les démons, les possessions, on pense que l'enfant a été échangé, on pense que l'enfant va porter malheur à la famille ou l'enfant va porter du bonheur à la famille, ce qui fait que la manière dont on va s'occuper de ces enfants-là va différer de la manière dont, qui va dépendre de la manière dont nous comprenons de quoi il s'agit.
D'accord. Bourama Sangaré, parlant de santé mentale, quels sont les facteurs qui favorisent la santé mentale?
Merci docteur Joseph pour cette brillante et pertinente intervention sur l'autisme. Et en ce qui concerne ce sujet, les facteurs déterminants de la santé mentale, là on va voir sur deux volets. Les facteurs favorables et les facteurs défavorables en matière de santé mentale. Et si nous parlons des facteurs favorables, il s'agit de tous les facteurs sur le plan social, économique, sur le plan psychologique ou culturel qui permet à l'individu d'acquérir une bonne santé mentale. Et pour être beaucoup plus précis, par exemple, nous pouvons prendre le soutien social. Si nous sommes entourés, nous sommes bien intégrés dans notre famille, dans notre société, nous sommes acceptés par les autres, nous partageons par les autres, avec les autres, ils partagent également avec nous, ils nous acceptent, nous avons un travail, nous avons quand même un revenu favorable, alors on a tendance à avoir une bonne santé mental et beaucoup d'autres choses, tout facteur qui contribue à l'amélioration de la relation entre l'individu et les autres, que ce soit l'environnement physique ou bien que ce soit l'environnement social, est un déterminant positif de bonne santé mentale. Maintenant, en ce qui concerne du point de vue des facteurs défavorables à la santé mentale, qu'on appelle aussi les risques de santé mentale, il s'agit de tous les facteurs qui portent un coup dur sur la santé mentale. Il s'agit des conditions socio-économiques défavorables, il s'agit des situations difficiles, il s'agit des coups durs de la vie, des événements majeurs de vie, tels que les deuils, les divorces, et les conflits conjugaux, les conflits sociaux, et même bien sûr, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, et avec la coupure continuelle et persistante, et du courant électrique dont les gens ont besoin, parce que ça fait partie des besoins sociaux de base aujourd'hui. On a besoin, certains même vivent de cela. Et quand ça continue, ils sont privés de leur travail. Soit même ils subissent des pertes sur le plan économique. Donc c'est un facteur néfaste sur la santé mentale. Et nous espérons à ce que cela s'améliore rapidement pour que les gens puissent profiter de leur bien-être. Ensuite, nous avons les changements climatiques. Avec les réchauffements climatiques, changements de climat, les inondations qui interviennent et qui font des dommages, l'augmentation de la température qui font que les gens sont vraiment stressés, avec les catastrophes naturelles qui surviennent, avec les conflits sociaux, bien entendu aujourd'hui, que nous sommes en train de vivre partout au Sahel et particulièrement au Mali. Donc les conflits sociaux, les conflits entre les différentes communautés, le terrorisme, les attaques, même les attaques à main armée, et les vols, que nous sommes en train de subir aujourd'hui, sont en réalité des facteurs néfastes à la santé mentale, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent conduire un individu donc, à quitter un état de bonne santé mentale et à être plongé dans un état de mauvaise santé mentale. Et bien entendu, selon aussi la vulnérabilité personnel de l'individu. Parce que ces événements, bien sûr, sont là. Chacun peut le vivre à sa manière. Ça, c'est en fonction donc, des traits de personnalité de l'individu. Tu verras qu'il y a des gens qui ont une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire, émotionnellement, ils sont très sensibles. il est difficile pour eux de faire face à un événement choquant. Et pour autant, il y a d'autres qui résistent de façon persistante, quels que soient les événements. Donc, la capacité de la personne, qu'on appelle les résilience traits, c'est-à-dire sa propre capacité à tenir face aux événements de la vie. Si ses capacités sont faibles, on va dire comme le corps se défend de façon... On ne va pas parler du métabolisme du corps. Le psychisme aussi se défend.
Donc vous voulez dire qu'on pourrait éviter les risques de troubles mentaux?
Oui. Donc si ces risques sont vraiment réunis, alors c'est vraiment un facteur défavorable à la bonne santé mentale.
Donc on peut éviter ces risques?
Bien sûr, il y a des facteurs qu'on peut éviter. Et s'il y a des cas qu'on ne peut pas éviter, donc on est obligé de s'adapter et de se préparer pour minimiser les conséquences de ces risques.
D'accord. Alors, quels sont selon vous les impacts des crises humanitaires ou des conflits armés sur la santé mentale?
Vous savez bien, aujourd'hui, nous avons vécu une certaine situation très difficile, surtout du point de vue des crises humanitaires. Quand vous voyez même le nombre de déplacements. En 2020, les recherches ont montré que plus de 20 millions de personnes ont été forcées à se déplacer dans leur propre pays, qu'on les appelle les déplacés internes. Et ces déplacés internes, c'est suite à des situations d'insécurité. Souvent, les personnes, ils sont obligés, ils sont forcés de quitter leur endroit auquel ils sont déjà attachés. S'il faut brutalement couper les liens avec notre milieu de vie habituel, c'est vraiment traumatisant. Et ces gens, dans la majorité des cas, sont obligés de quitter de façon brutale. Et chacun se cherche. Souvent même, nous avons appris des cas où les chefs de famille étaient absents, ils étaient partis dans la brousse pour les activités. Ils retournent trouver que toute la famille est absente après l'attaque. Donc, qu'est-ce que cela fait déjà à l'état mental? Et les gens qui quittent leur milieu pour aller vers l'inconnu, c'est l'inconnu ici, puisqu'ils vont aller chercher un autre endroit pour reprendre à vivre de nouveau. Donc là où ils vont, déjà en partant, ils ont tout perdu. Ils ont tout laissé derrière eux. Dans cette situation, on ne peut pas prendre quelque chose avec laquelle on peut partir. On quitte les mains vides. Donc, et là où ils vont partir également, ils vont se retrouver les mains vides. Souvent, ils ne sont même pas logés. Vous voyez, au Falagé, ça c'est un site spontané, c'est-à-dire ce sont les gens qui sont venus naturellement s'asseoir, sinon ce n'est pas un site autorisé, mais il y a d'autres sites aussi qui sont des sites conventionnels autorisés. Donc les gens qui viennent là-bas, généralement, ils n'ont pas de travail. Et comment ils vont vivre? Aussi, souvent il y a des gens qui quittent, qui étaient des personnes de haute dignité, qui dans leur milieu de vie d'origine, même aidaient avec des bons revenus, parvenaient à subvenir à leurs besoins, mais couvraient aussi les besoins des autres. Mais imagine cette personne qui vient se trouver dans cette situation où lui, il va dépendre de l'autre, de l'aide de l'autre. Donc, il va se sentir déjà diminué dans sa dignité. Donc, que fait-il faire? Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation? Donc, il y a déjà un coup dur. Plus l'état de panique qu'ils ont vécu à la suite de la crise qui s'est déclenchée. Et ensuite, les changements brutaux et forcés de mode de vie qui va s'imposer sur eux constitue un autre coup brutal qui est vraiment difficile à supporter psychologiquement. Et aussi, lors de ces crises, souvent des gens sont obligés à être victimes, à être témoins directs des carnages, souvent des proches très intimes. Imagine qu'on égorge les pères, ou bien la mère, ou bien les enfants devant ses propres parents. Imagine qu'on voit étaler les victimes, les morts partout, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à voir. Donc, il y a des carnages qui se passent durant les crises sécuritaires dont les gens ont été victimes et qu'ils ont vues, souvent des proches directs ou d'autres connaissances psychologiquement qui est vraiment difficile. Donc, c'est traumatisant. L'un des critères même du traumatisme, c'est le fait d'être témoin direct à des événements vraiment traumatisants que l'individu ne veut pas supporter.
D'accord. Gaye, vous avez parlé tout de suite de discrimination des enfants, qui, de refus d'acceptation des enfants par des monitrices. Est-ce à dire que les droits de ces enfants qui souffrent de ces troubles mentaux sont respectés par tous?
Merci bien. Vous savez que le problème que nous avons aujourd'hui, malheureusement, l'autisme, c'est une maladie méconnue encore dans ces pays-là, et souvent c'est même mal comprise. C'est ce qui nous a amené. Moi, mon enfant, dès le jour de sa naissance, il a été obstalisé. On a fait le tour des médecins. Quand on est venu une première fois à l'hôpital, à la pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré, on m'a parlé de la méningite. Après, on m'a parlé du sourmier. On m'a parlé de pourquoi ? Parce que c'était méconnu. C'est pourquoi en 2017, quand nous avons créé notre association, la première des choses qu'on a eu à faire, on a eu à faire d'abord un plaidoyer à la commission de santé de l'Assemblée nationale à l'époque. Et en 2018 déjà, on avait à former, en collaboration avec la direction régionale de la santé, y compris avec le projet chargé de la recherche de l'autisme, 170 médecins, tout confondu. Les pédiatres, les neurologues, les pédiatres, les psychologues, tout. Ils venaient des SESCOM, des CCRF, de l'hôpital du Pongé, de Gabriel Touré. Il a fait la formation au niveau de l'hôpital Gabriel Touré et au niveau du Pongé. Ces jours-là, je crois qu'on a même fait à la neurologie là-bas. Donc, c'est pour vous dire, nous ne sommes pas arrêtés là-bas. On a continué à former d'abord encore les parents même. On a eu à former 60 parents d'enfants, Bamako ici. On a eu à former de plus encore, on est parti plus loin pour aller chercher des thérapeutes. On a été voir la fédération des thérapeutiques, on a eu à former là-bas 40. On a formé également après. On est descendu jusqu'en bas en 2018 pour venir voir. En 2018, on est venu voir les enseignants parce qu'on n'acceptait pas nos enfants. Donc on est venu voir des conseils pédagogiques des CAP de Bamako et de l'Académie de Bamako pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que l'autisme. Les médecins de campagne, on a formé 18. Et chaque formation, on sortait avec nos enfants. Au minimum, il y avait six familles, au minimum. On viendra témoigner publiquement devant les formats. C'est que les gens formés, pour expliquer
parents,
un peu.
Les parents que vous formez, est-ce qu'ils contribuent à la rééducation de ces enfants?
Mais c'est ça le plus important. Il faut former les parents pour qu'ils s'occupent de leurs enfants en famille. Parce que les spécialistes vont bien parler tout de suite. Vous avez compris? Donc, nous, le problème est quoi? Le coût est énorme. Moi, mon enfant, il a un professeur psychologue. Il a un orthophoniste. Le coût est énorme. Tout le monde ne peut pas payer. Pour une heure, il faut 10 000. Ou 8 000 francs pour l'orthophoniste. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes mis à créer les centres pour tout le monde. Parce que nous, c'est à but lucratif. Nous sommes des parents. Nous ne sommes pas commerçants.
Le psychologue est interpellé dans ce cas.
Non, mais parce que c'est dans leur rôle. C'est l'État qui doit prendre en charge tous ces actes, doit subventionner. Et ce que nous demandons à l'État, c'est de prendre l'autisme comme le sida, comme la césarienne, pour subventionner. Nos médicaments sont chers. C'est pourquoi nos enfants, tellement que le docteur Joseph a expliqué, quand il commence tout de suite à faire une action, il peut faire ça jusqu'à demain matin. Une seule action. Et puis il y a beaucoup qui ne parlent pas. Il y a beaucoup qui ne marchent pas. Nous ne sommes pas parvenus à donner tout ce qui ne marche pas, les tricycles, à eux. On a fait beaucoup de choses avec ces enfants-là. Quand on nous parle d'un enfant, on se déplace nous-mêmes pour aller voir. Et c'est le lieu de remercier le docteur Sangaré, qui a toujours consulté nos enfants gratuitement. Et on remercie aussi la pédiatrie du Pongé, qui consulte nos enfants tous les mercredis, gratuitement.
D'accord. On va lui poser la question. Au niveau de votre psychiatre, vous recevez quel type de malades mentaux?
Alors, on reçoit... D'abord, par rapport à la maladie mentale, il faut savoir qu'il y a plusieurs maladies mentales. Il n'y a pas qu'une seule maladie mentale. Il y en a plusieurs. Et il y a, par rapport à la maladie mentale, par rapport à cela, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle les psychoses. Ce sont les troubles qui la personne elle-même ne sait pas qu'elle est malade. Et ces psychoses-là, il y a plusieurs formes. Il y a ceux qui sont aigus, c'est-à-dire qui n'ont pas trop duré, et il y a ceux qui sont chroniques, c'est-à-dire qui évoluent de façon continue. Par rapport aux psychoses aiguës, Et très généralement, c'est des situations qui, c'est des maladies qui débutent brutalement, qui ne durent pas. Et dès qu'on fait la prise en charge, les choses rentrent dans l'ordre. Les psychoses chroniques, et très généralement, c'est ceux-mêmes qui font qu'on a peur de la psychiatrie. C'est très généralement ce qu'on appelle la schizophrénie, qui est la maladie psychiatrique la plus grave, qui est chronique. C'est-à-dire qu'il ne guérit pas totalement. C'est ce qu'on voit très généralement, une partie qu'on voit dans la rue qui se promène complètement en haillons, très sale. C'est ces cas-là. Et généralement, les gens se ramènent, dès qu'on parle de maladie mentale, les gens se ramènent tout à ces quelques cas-là. Alors qu'il y en a plusieurs autres. En dehors des psychoses, il y a ce qu'on appelle les troubles de l'humeur, notamment. Ce qui fait qu'on devient très triste. Ce sont des gens qui sont très tristes. Ce sont des gens qui voient leur avenir complètement en ruine. Ce sont des gens qui, tellement qu'ils sont dégoûtés de la vie, vont aller jusque vers des tentatives de suicide ou vers le suicide. Ce sont des gens qui ont beaucoup de plaintes sur le plan physique, qui pleurent facilement, qui passent toute la nuit, comme on le dit, à broyer le noir. Ça, ce sont des cas de dépression qu'on voit.
Par jour, vous pouvez recevoir combien de ces cas?
Alors, en moyenne, en consultation en psychiatrie, très généralement, c'est tous les jours de la semaine du lundi au jeudi. La consultation en moyenne du lundi au mercredi, on est entre 150 et 250 consultations par jour. Parce que c'est le service spécialisé du pays. Alors, il y a tous les cas. Les troubles de l'humeur, les troubles anxieux. Les troubles anxieux, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont des préoccupations, qui ont des inquiétudes de façon permanente. Des inquiétudes justifiées ou non justifiées. Ou des gens qui ont des peurs, qui ont peur qu'on appelle les phobies, qui ont peur des situations qui, en réalité, ne doivent pas faire peur. Ou des gens qui ont des comportements qu'on appelle obsessionnels. Une propriété exagérée ou qui ont le doute si les choses sont bien faites ou pas et qui reviennent chaque fois là-dessus. Et il y a aussi, Sangaré l'a bien parlé, tout ce qui est trouble stress post-traumatique. C'est quand les gens ont été confrontés à une situation, notamment une situation où leur vie, où leur intégrité physique est mise en cause, que ce soit les accidents, que ce soit les catastrophes, que ce soit les carnages, que ce soit les violences, le viol ou les agressions sexuelles. À la suite de ça, les gens peuvent présenter des troubles. Et nous recevons ces cas-là aussi au niveau du service.
Alors, comment se fait leur prise en charge?
Alors, la prise en charge, il y a plusieurs volets par rapport à la prise en charge. Il y a le volet, qu'on va dire, médical. C'est quoi? On va les recevoir, on va les écouter. On va les examiner, on va poser ce qu'on appelle en jargon le diagnostic pour savoir de quoi il s'agit et planifier la prise en charge avec les médicaments, avec la parole, les psychologues. Mais quand la personne est stabilisée, il y a ce qu'on appelle la prise en charge sur le plan social. Il faut aider ces personnes à se réinsérer dans la société, à vivre dans la société. S'ils travaillaient, il faut qu'on puisse les aider à puisse continuer à produire.
On va parler de leur réinsertion plus tard. Combien de centres le Mali dispose-t-il?
Alors, par rapport au nombre de centres, il faut savoir qu'il y a deux principaux centres. Le service de psychiatrie qui est le centre étatique principal et la polyclinique de Kati. En dehors de ça, il y a les antennes qui sont des structures qu'on retrouve à Bougouni, à Koutiala, à Sikasso, à Ségou. Ce sont des lieux où il y a des spécialistes là-bas ou des infirmiers qui ont été spécialisés dans la prise en charge des problèmes de santé mentale qui se trouvent au niveau de ces centres-là. Donc il n'y en a pas autant que ça au Mali. C'est pour ça qu'au point G, nous sommes débordés par la prise en charge.
D'accord. La prise en charge des enfants autistes, il en a parlé, qu'il y a un coût élevé, notamment chez les psychologues. Alors, qu'est-ce qui explique cela, selon vous?
Oui, ce qui explique cela, souvent, parce que les gens aussi, en réalité, travaillent pour gagner quelque chose. Alors, pour la prise en charge, généralement, c'est dans les structures. Parce que pour les structures orientées, je me rappelle bien, pour l'association malienne de déficience intellectuelle Amaldem, qui est à Lafiabou, j'ai fait une période là-bas. Là, quand même, ils font également la prise en charge. Nous avons eu l'expérience de recevoir des autistes et participer et à leur prise en charge. Là, on ne peut que le faire de consultation, simplement. Mais si c'est dans un cadre, dans un cabinet privé, ils ont des frais de consultation qui sont fixés. Voilà. Mais précisément, s'il y avait également ce qui était prévu par rapport à la prise en charge, peut-être qu'on ne connaît pas, sinon même... parce qu'il faut que la structure soit adaptée. Il y a les forces Souleymane Koulibaly au service de psychiatrie, mais il fait également beaucoup d'autres choses. Il faut que la structure soit bien adaptée et qu'il y ait suffisamment de personnel pour occuper à ces cas. Donc, c'est le problème du personnel est l'un des problèmes fondamentaux par rapport à ces sujets. Donc, ceux qui évoluent dans les cabinets privés, donc on leur prend des consultations qui peuvent faire que les choses peuvent être parfois difficiles.
D'accord. Docteur Traoré a parlé tout de suite de plusieurs types de cas de malades mentaux qu'ils reçoivent par jour. Oui. Quel comportement doit-on adopter face à ces personnes qui présentent des troubles mentaux?
En réalité, quand on dit maladie mentale, c'est une maladie. Et les gens qui ont eu cette maladie n'ont pas choisi par eux-mêmes. Donc tout le monde peut tomber dans la maladie mentale. Donc, ce que nous devrons savoir, notre perception à l'égard de ces malades peuvent aussi aggraver ces maladies. Quand nous parlons des droits à la santé, ou des droits, l'accès à la santé, ou encore les droits humains, tout le monde a droit de vivre dans la dignité et tout le monde a droit d'être accepté, d'être protégé et d'être respecté. Mais généralement, avec les malades, envers les personnes, on va dire, en situation de handicap psychique, souvent, on fait acte de violation des droits humains, souvent sans même s'y rendre compte, notamment à travers la stigmatisation. C'est-à-dire que ces personnes...
Donc il existe des couches plus vulnérables
à... Voilà. C'est des personnes à besoins spécifiques, si on peut se permettre à dire comme ça, qui ont besoin, en réalité, de beaucoup d'attention pour améliorer leur cas. Mais contrairement, on fait des actes qui compliquent leur situation. À travers la stigmatisation, comme j'ai si bien dit, la marginalisation qui consiste à ne pas s'occuper, à les négliger. Donc ces personnes sont vraiment victimes. Et le plus souvent des stigmatisations, qui est vraiment un obstacle à la prise en charge. Puisque, on va dire, la prise en charge, et un auteur l'a dit, quand on fait le traitement des malades mentaux, et si on ne fait pas de l'insertion sociale, c'est comme si on a fait la moitié du traitement. Donc, le reste dépend de l'insertion sociale. Et cette insertion sociale, ça dépend de quoi? Ça va dépendre en réalité de l'égard, de la perception, de l'attitude de la population envers ces malades-là. Oui. Lorsqu'ils se sentent rejetés, donc cela va rendre difficile leur intégration sociale et leur réinsertion socio-professionnelle, qui est vraiment un aspect positif pour leur état de santé. Donc ils vivent des situations de ce genre.
D'accord.
J'ai même dit, entendu un chef de famille, il dit avec son enfant qui a une déficience intellectuelle, Ces genres de personnes méritent de rester à la maison. L'amener à l'hôpital, c'est une perte de temps.
D'accord.
Imagine une femme également qui dit, avec trouble, qui vit avec un trouble dépressif, si je pars à l'hôpital, si on me voit, personne ne va plus me marier. Parce que les gens savent qu'ils sont stigmatisés, ils sont rejetés. Donc ces attitudes sont vraiment négatifs par rapport à leur état de santé.
D'accord. Bandjougou, vous avez évoqué tout à l'heure des difficultés qui vous ont poussé d'ailleurs à faire déménager votre centre. Comment comptez-vous relever ces défis auxquels vous faites face?
Bon, vous savez, nous ne cesserons jamais à nous battre pour la cause de nos enfants parce qu'ils ont besoin d'abord de notre première affection. Ces enfants ont besoin d'affection d'abord. Et cette maladie a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari, leur mariage et leur travail. Ça, en 2021, en février-mars, Nous avons eu affaire par un Malien, un Franco-Malien ici, au nom de Traoré Abdoul, pour prendre 6 familles en charge à la clinique MP à Katila, Djelukouria à Katila. Mais ça a été un succès. C'est un éducateur spécialisé, c'est pour l'éducation spécialisée, qu'on a mené pour prendre 6 enfants et puis avec suivi en famille. Pendant ces 2 mois-là, moi-même, l'enfant était là-dedans. On a vu que c'était très, 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 ça fait beaucoup de succès. Donc, ce centre-là, nous, on a besoin. Parce que nous-mêmes, on n'a pas attendu l'État. L'État doit venir en aide à ces enfants-là, parce que c'est les enfants normaux, c'est les citoyens normaux. Ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la santé. Donc, c'est pourquoi, parce que quand un parent a payé 1 875 000 un coup, et puis il nous a donné des matériels et des mobiliers, des bureaux, une valeur de 7 millions, et on n'a pas pu trouver un moniteur ou une monitrice pour une prise en charge, même une heure de temps. Est-ce que vous pouvez retourner devant ces parents-là, encore pour parler de quelque chose? C'est pourquoi j'ai préféré volontairement emmener le centre dans ma propre maison.
D'accord.
Donc, il n'y a pas question de paiement là-bas.
D'accord.
Donc, il y a ça. Il y a aussi un autre aspect. C'est quoi? Nous, on a écrit un peu partout. Même au rectorat, au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons écrit partout pour demander ces moniteurs-là. On n'a pas pu trouver. C'est ça qui m'a blessé.
D'accord.
On ne te donne même pas la réponse de votre correspondance. À la fin, je vais vous dire, partout où j'ai parvenu à faire des correspondances, j'ai toutes les décharges à faire.
D'accord.
Donc, le défi là, c'est nous d'abord, nous les parents.
D'accord. Docteur Traoré, peut-on guérir complètement d'un trouble mental?
Il y a beaucoup de troubles mentaux dont on peut guérir totalement. Et ça dépend aussi, il y a des troubles, comme dans toute autre spécialité de médecine, il y a des formes de maladies où on ne guérit pas totalement, on stabilise ces cas. Aussi, en matière de maladies mentales, il y a des troubles où tout rentre dans l'ordre, on guérit totalement, c'est fini, mais il y a des formes aussi où, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, qui sont des maladies connues chroniques, qu'on appelle comme ça, ces maladies, on ne peut pas guérir totalement, mais on stabilise la personne et la personne peut faire sa vie de façon comme toute autre personne, mais sous traitement médical et accompagnement médical.
Et une personne guérie d'un trouble mental, comment doit se faire sa réinsertion sociale?
Sa réinsertion sociale se fait comme la réinsertion de toute autre personne. Si la maladie ou les troubles ont fait que la personne a eu des difficultés ou a perdu son emploi ou sa profession ou sa famille, quand les choses rentrent dans l'ordre, il faut l'aider à récupérer. Comme toute autre personne, comme quelqu'un qui est en chômage, comme quelqu'un qui a été compressé, on doit l'aider à faire les démarches, à trouver là où il faut et adapter à son état.
D'accord. Il déplore tout de suite un manque d'accompagnement des autorités. Partout où il partait déposer ses courriers, il ne trouve pas de réponse. Quel accompagnement faut-il pour ces enfants autistes, selon vous?
En réalité, pour accompagner ces enfants, c'est les enfants comme tout autre enfant. Et il faut les accepter. Il faut les accepter. Dr. Joseph a parlé surtout de la perception de la société qui est souvent négative à l'égard. C'est ce qui complique déjà la tâche. J'ai appris les témoignages d'une dame qui a 2 enfants autistes quand elle était partie pour la prise en charge à l'AMALDEM. Elle est avec toujours ses enfants. Et si je les laisse à la maison, c'est des problèmes. Ils ne vont pas se comprendre avec les gens. Et si je les amène, même les mariages, je suis obligé de les amener. Si je les amène,
d'accord,
c'est un autre problème.
On me fait signe que nous n'avons plus de temps, malheureusement.
Ouais.
Il est déjà 19h,
ouais.
On doit terminer ce débat.
Ouais.
C'est ce qui met fin à ce grand dialogue qui parlait de quelle prise en charge pour les malades mentaux. Et nous étions avec Dr Joseph Traoré, psychiatre à l'hôpital du Point G, Bourama Sangaré, psychologue au département de la psychologie de la faculté de sciences humaines et de sciences de l'éducation, Bandjougou Djougougay, président de l'association des enfants autistes Djigia. À la présentation de ce débat, je suis Mirana Kilomaïga. Ce débat a été réalisé par Mariam Koulibaly. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.